Toolkit.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, il est 17h, voici votre rendez-vous d'information avec Wallis Glaise. L'armée israélienne dit qu'elle va utiliser une force sans précédent à Gaza et appelle la population à évacuer. Incursion dans le ciel de l'OTAN, 3 avions de chasse russes sont entrés dans l'espace aérien estonien il y a quelques instants. Réaction du général Dominique Trinquant dans ce journal. L'armée israélienne a dit qu'elle allait utiliser une force sans précédent à Gazaville, dans le nord du territoire palestinien, où elle mène une offensive majeure appelant la population à évacuer. Une exode des Palestiniens vers le sud, l'armée israélienne a estimé aujourd'hui qu'environ 480 000 personnes avaient fui Gazaville. L'ONU estimait fin août à environ 1 million d'habitants le nombre de Palestiniens sur place. Et le président français Emmanuel Macron a donné une interview hier à une chaîne israélienne, affirmant notamment qu'Israël était en train, je cite, de détruire totalement son image et sa crédibilité dans l'opinion publique mondiale. Un nouveau veto américain à l'ONU. Les États-Unis ont une nouvelle fois bloqué hier l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de donner son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran. Téhéran, à qui Paris, Londres et Berlin demandent des engagements plus fermes sur son programme nucléaire, un texte qui prévoyait de maintenir la levée des sanctions décidées en 2015 a été rejeté. Incursion dans le ciel de l'OTAN, 3 avions de chasse russes sont entrés dans l'espace aérien estonien. Ils y sont restés 12 minutes. Une annonce du ministère des Affaires étrangères de ce pays membre de l'OTAN. L'Estonie qui a réagi et a dénoncé une violation sans précédent de son espace aérien. C'est un rebondissement dans un dossier terrible au bout de 4 décennies. Selon le Parisien, l'autorité palestinienne a informé la France par courrier officiel de l'arrestation en Cisjordanie de l'un des principaux suspects de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers le 9 août 1982. L'homme dont l'identité n'a pas été révélée au moment où nous rédigeons, où nous vous adressons cette information, va faire l'objet d'une demande d'extradition. 9 mois après la réouverture de la grande nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les tours ouvrent leurs portes au public. Ce week-end, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le président Emmanuel Macron est présent pour l'inauguration ce vendredi. Ligue des champions, fin de la première journée, les Belges du club Bruges ont complètement explosé les Monégasques. 4-1, le FC Copenhague fait match nul contre le Bayer Leverkusen de partout. Francfort s'impose très très largement face aux Turcs de Galatasaray 5-1. Manchester City s'impose 2-0 face à Naples. Barcelone s'impose 2-1 face à Newcastle. Et enfin les Portugais du Sporting Lisbonne s'imposent également facilement face à la modeste équipe du Kirat Almaty, une équipe kazakh. C'est la fin de ce point d'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Le premier dossier du jour, incursion dans le ciel de l'OTAN. Je vous le disais, 3 avions de chasse russes sont entrés dans l'espace aérien estonien. Ils y sont restés 12 minutes. Une annonce du ministère des Affaires étrangères de ce pays membre de l'OTAN, l'Estonie, qui dénonce une violation sans précédent de son espace aérien. Je vous propose d'écouter l'analyse du général Dominique Trinquant, spécialiste des affaires internationales.
Le premier point qu'il faut rappeler, c'est que l'Estonie ne dispose pas d'armes aériennes et que ce sont donc des avions de l'OTAN à tour de rôle qui assurent la défense aérienne du ciel estonien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que après l'incursion des drones de la Biélorussie vers la Pologne, drone russe, c'est une nouvelle violation et il est certain que la Russie cherche absolument à provoquer le dispositif de défense aérienne de l'OTAN et à montrer sa vulnérabilité. Donc il faut absolument que l'OTAN renforce cette cette défense aérienne. Et j'attends de voir quelle a été la réaction à cette violation, puisque, je le répète, ce sont des avions de l'OTAN qui doivent assurer la défense aérienne de l'Estonie, l'Estonie ne disposant pas d'armée aérienne.
Quelles sont les options, justement, de l'OTAN aujourd'hui ?
Alors, écoutez, les options sont assez simples. Il y a des procédures qui existent sur des avions comme ça, c'est-à-dire faire, bien sûr, décoller des avions, essayer de prendre contact avec eux, de les chasser à l'extérieur de l'espace aérien national. Et enfin, la dernière formule, c'est bien sûr d'effectuer des tirs sur ces avions. Encore une fois, j'attends d'avoir les informations de l'OTAN sur ce sujet.
Oui, sachant que ces avions sont restés 12 minutes au total. Donc cette option de faire décoller des avions, elle est réaliste, ou alors c'est l'option des tirs qui pourrait être, bien entendu, entraîner un engrenage qui serait la plus plausible?
Alors, d'abord, 12 minutes, ça veut dire qu'il y a le temps de faire décoller les avions. Je rappelle que les avions sont en alerte beaucoup plus rapprochée que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'engrenage, je rappelle que c'est la Russie qui provoque l'engrenage. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet engrenage. Il faut simplement appliquer les mesures qui sont prévues. Et encore une fois, j'attends la réaction de l'OTAN. Pour l'instant, il n'y a qu'une réaction de l'Estonie.
Quelle pourrait être la réponse de la Russie si cette option était appliquée après cette nouvelle provocation de l'agresseur russe?
Eh bien, c'est tout le processus des escalades qu'il faut mettre en œuvre. Je pense que la Russie n'a pas les moyens d'escalader, et que donc, en l'espèce, elle a effectué cette mission en sachant qu'il ne pouvait pas y avoir d'escalade de l'OTAN. Donc il faut absolument arriver à définir quel est le créneau dans lequel ça s'est passé pour que ceci ne puisse pas se renouveler.
Une interview réalisée par François-Xavier de Calonne. L'autre dossier du jour, la reconnaissance prévue lundi prochain de l'État palestinien par la France. Emmanuel Macron reconnaîtra l'État de Palestine à New York lors de la conférence pour une solution à deux États à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Emmanuel Macron mis sur cet événement diplomatique de grande envergure pour donner un nouvel élan au processus de paix au Moyen-Orient. La semaine dernière, 142 États ont signé la déclaration de New York à 10 jours du sommet de ce lundi co-présidé par Paris et Riyad. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste du Proche-Orient et du Moyen-Orient. On écoute son analyse.
Il y a déjà 5 mois, quand le président Emmanuel Macron avait évoqué sa volonté, son idée de reconnaître la Palestine, ou en tout cas de le faire officiellement dans sa prise de parole à l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'ONU et la 80e Assemblée Générale, il avait parlé de 4 conditions, parmi lesquelles la libération des quelques quarantaines d'otages encore entre les mains du Hamas et du djihad islamique, dont 39 précisément otages, dont 27 seraient décédés, la non-participation du Hamas à tout processus politique résultant donc d'un processus de cessez-le-feu que le président Emmanuel Macron appelait de ses voeux, alors que l'on sait que même s'il a été signé en janvier dernier, il a été bafoué en mars de cette même année par les Israéliens qui continuent, hélas, de continuer à bombarder Gaza. Et puis la troisième condition, c'est évidemment la condition d'un leadership politique pour la future autorité palestinienne, alors que l'on sait que les dernières élections législatives se sont tenues en 2006, que le président Mahmoud Hamas n'a pas été réélu officiellement en 2005, et que d'une certaine manière, il y a une forme de carence démocratique et une absence de gouvernance pour l'autorité palestinienne.
Et vous évoquez le Hamas, Emmanuel Dupuis, sachant que le président de l'autorité palestinienne a écrit à Emmanuel Macron pour lui assurer que le Hamas ne ferait pas partie d'une gouvernance de l'État palestinien.
Alors ça, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Premièrement, parce que l'autorité palestinienne, le Fatah, et l'Organisation de libération de Palestine le reconnaissent comme tel. Et donc l'autorité palestinienne veut déhamaïser, si je puis m'exprimer ainsi, toute volonté donc de créer un État palestinien binommé sur la Cisjordanie, co-localisée sur la Cisjordanie et sur la bande de Gaza, mais cette décision avait déjà été obtenue à l'occasion d'une réunion il y a déjà 4 mois, sous l'égide du prince héritier et premier ministre Mohamed Ben Salman à Riyad, avec l'idée selon laquelle il fallait obtenir un consensus de la Ligue arabe, de l'Organisation de coopération islamique, ce qui fut fait et obtenu finalement sans coup férir. Alors ça c'est une évolution positive. Il faut avoir à l'esprit que les 142 pays qui ont voté pour la reconnaissance à venir de la Palestine n'en demeurent pas moins sous l'épée de Damoclès d'un éventuel veto américain, car les États-Unis déjà en avril dernier avaient émis un veto quand il s'agissait de reconnaître à la Palestine un statut autre que celui de seul membre observateur dont elle disposait depuis 2012. Il reste encore évidemment ce caveat qui est lourd de conséquences. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, était à Jérusalem et à Tel Aviv il y a quelques jours pour peut-être lever quelques conditions, ou en tout cas on a le sentiment qu'il y a deux visions de la reconnaissance palestinienne. Si ceux qui, comme la France, espèrent que cela soit corroboré par un cessez-le-feu qui tienne la fin des hostilités, la fin donc du drame humain qui se joue à Gaza depuis octobre 2023, et puis bien évidemment ceux qui estiment que la reconnaissance de la Palestine devrait avant tout se faire une fois que le Hamas sera éradiqué. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays hésitent encore à se ranger à la position française. Un certain nombre de pays vont reconnaître, comme la France, le Luxembourg, le Canada, sans doute la Nouvelle-Zélande.
La Belgique qui semblerait des conditions.
Il semblerait qu'un certain nombre de pays aient encore des conditions et mettent encore un certain nombre de conditions. Et on verra bien de ce point de vue si la position française est une réussite personnelle du président Emmanuel Macron ou si au contraire la position de plus en plus unitaire au sein de l'Union européenne met en porte-à-faux finalement de part et d'autre de l'Atlantique ceux qui prônent une solution à deux États ou ceux qui prônent encore une solution à deux États ou ceux qui pensent que Benjamin Netanyahou doit obtenir les marges nécessaires pour d'abord se débarrasser du Hamas. Bon, on a bien vu que cela est sans doute un peu éloigné ou étranger à son agenda quand il y a 2 semaines de cela, bombardé les négociateurs avec lesquels il était en train de discuter la libération de ces mêmes otages.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, au micro évidemment de François-Xavier et de Calonne. Merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Merci à Bizri pour la réalisation. Excellente suite des programmes. Patience. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes à 18h pour le prochain rendez-vous de l'actualité. À tout à l'heure.